Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Bonjour Olivier Pourriol.
Bonjour.
J'ai lu et beaucoup ri en lisant votre dernier roman, Une fille, un flingue, édité chez Stock. Je l'ai lu comme un polar truffé de références cinématographiques et littéraires, souvent irrévérencieuses, sinon ce n'est pas drôle. Mais en tentant de raconter l'histoire de votre livre à ma petite équipe, en leur livrant quelques passages, en dressant le portrait des deux frères Dimitri et Alyosha, personnages principaux, deux anti-héros qui se lancent dans le cinéma avec l'audace des malfrats, je n'ai pas pu répondre à la question qu'ils m'ont posée à la fin. Et alors, ce roman de Pourriol, est-ce un hommage au cinéma français, une ode à ces stars, qu'ils soient réalisateurs ou comédiens, ou est-ce au contraire une satire sur le milieu du cinéma hexagonal? Alors, je m'en suis sorti en leur disant qui aime bien châtie bien, mais c'est une vraie question, Olivier Pourriol.
Alors, vous attendez une vraie réponse, mais c'est une histoire, ça raconte le désir de cinéma. Et le désir de cinéma, ça rencontre des obstacles, parce que le cinéma, c'est très cher. Donc c'est à la fois un hommage et une satire, c'est la même chose, parce que si vous avez un désir de livre, il vous suffit de vous asseoir et de vous obstiner jusqu'à... Les mots résistent, bien sûr, ils ont leur résistance propre, mais les résistances propres au cinéma sont toujours externes, la plupart du temps, il y a des questions de budget, etc. Donc c'est ça l'essence de ce livre, c'est un désir de cinéma qui aboutit en livre, parce qu'on est beaucoup plus libre en littérature qu'on l'est dans le cinéma.
Vous voulez dire que vous ressemblez à vos personnages ?
Mais évidemment, c'est-à-dire qu'un livre s'est fait, c'est comme si on se faisait diffracter en personnages, et chaque personnage incarne un type de rapport au cinéma, donc chacun a sa voix, il y a celui qui est prêt à tout pour faire du cinéma, il y a celui qui n'est pas prêt à tout, il y a celui qui est dans l'hommage, il y a celui qui est dans le respect, il y a celui qui est du côté de l'argent, et tous ces désirs, de temps en temps, se réunissent pour fabriquer un film, mais c'est rare que ce soit en harmonie. Donc il y a beaucoup de films qui ne se font pas, et ça fait partie aussi du mystère du cinéma. Orson Welles, il a commencé par un film que tout le monde a reconnu, et puis il a passé la fin de sa vie à écrire des scénarios qui n'étaient jamais filmés. Et voilà, donc à chacun de trouver dans ce livre l'image du cinéma qui lui correspond.
Parlant d'Alyosha et de Dimitri, ces deux frères barrés, tout droit sortis de l'univers des frères Cohen. D'ailleurs, quand le roman commence, ils sont déjà en prison, ce sont des losers, ils ont tout raté.
Oui, c'est vrai, mais comme ils disent, ce qui compte dans une histoire, c'est la manière de la raconter. T'as le droit de tout rater, si tu le racontes bien, à la fin, c'est toi qui as gagné, parce que ça fait une bonne histoire.
Et pourtant, il y a une morale, c'est leur passion du cinéma qui va les mener là où ils sont, en prison.
Oui, mais ça, c'est au début, parce qu'à la fin, on voit bien que bien raconter une histoire, même si c'est fait en prison, ça peut vous permettre de vous en sortir. D'ailleurs, ils sont déjà dans un livre.
Est-ce que vous leur ressemblez, Olivier Pourriol, à ces deux frères, Dimitri et Alyosha?
Mais on peut pas leur ressembler complètement, parce que Alyosha et Dimitri, évidemment, j'ai emprunté ça à la grande littérature russe, donc Alyosha, c'est le pur, et Dimitri, c'est le corrompu, celui qui est prêt à tout. Et ce qui compte, c'est que c'est leur association qui les rend dingues. C'est-à-dire que l'un sans l'autre ne peut rien faire. Le puriste, celui qui rêve de cinéma, il ne peut pas en faire parce qu'il est tout le temps dans l'hommage et dans le respect. Il est
dans la citation.
Voilà. Et celui qui n'a pas la culture mais qui a le désir, il ne peut rien faire non plus parce qu'il est juste dans la violence. Donc c'est l'association des deux qui fait qu'on peut avoir des films intéressants. Et si vous voulez, Alyosha plus Dimitri, ça donne quoi? Ça donne d'une certaine manière Truffaut, ça donne Godard. Truffaut plutôt que Godard d'ailleurs. Truffaut qui, à la fois, il le disait lui-même, lui il est plutôt un voyou. C'est un hommage que lui rend Gérard Depardieu d'ailleurs. Il disait Truffaut, c'était un vrai voyou. Et dans la bouche de Depardieu, c'est un compliment. Mais c'est un vrai voyou sans les crimes. C'est un vrai voyou qui met toute son astuce au service de films. Donc un film, d'une certaine manière, c'est toujours un hold-up parce qu'il faut le faire contre son époque, contre les résistances du temps.
Truffaut, et s'il le faut avec l'argent de la mafia.
C'est Truffaut qui l'a voulu même. Hein. Il a fait certains de ses films avec de l'argent dont il ne savait pas d'où il venait. Mais il dit un financement des films plus raisonnables ne donnera pas des meilleurs films. Ça donnera des films plus raisonnables. C'est pas la même chose.
Mmh. Et puis on croise pas seulement Truffaut ou Godard, pour reprendre le titre du roman, Olivier Pourriol, on croise d'autres monstres du cinéma, des comédiens, par exemple La Deneuve et le Depardieu.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont participé à mon livre, en tout cas les mots, Deneuve et Depardieu ont participé à mon livre gracieusement. J'espère que les supports réels de ces mots, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, ne seront pas offusqués d'avoir joué dans un livre. Et bon, à l'heure qu'il est, on n'a pas de nouvelles négatives, donc pas de nouvelles bonnes nouvelles.
Alors, quand vous dites « jouer dans mon livre », le mot est très juste, puisque vous avez écrit ce roman comme un livre, hein, c'est-à-dire avec des dialogues, des scènes, des chants contre chants, des versions qui vont se couper ou se contredire. Vous l'avez vraiment voulu comme un film, ce roman?
Non, c'est vraiment un livre sur le désir de cinéma. Donc ça, je considère que le lecteur d'aujourd'hui est quelqu'un qui est pétri d'images, de films, de séries, et que ces compétences qui sont celles du spectateur modifient le genre de lecteur auquel on s'adresse, le genre de lecteur qu'on est. Et quand on lit un livre de nos jours, on n'a pas simplement lu des livres, on a aussi vu des films. Et ça donne des possibilités en termes d'écriture, parce que ça veut dire qu'on est capable de supporter des ellipses, de supporter du montage, de supporter beaucoup de choses qui auraient été impossibles il y a 50 ou 60 ans. Donc j'écris un roman avec des outils qui sont ceux de la compétence du lecteur d'aujourd'hui.
Et bien sûr, à travers les intrigues, à travers vos personnages, est-ce que on peut dire que c'est aussi votre vision du cinéma français qui est dans ce roman, Olivier Pourriol?
Oui, du cinéma français, parce que c'est d'une certaine manière le sujet, c'est le financement du cinéma, et le financement du cinéma français, ça passe par ce qu'on appelle l'exception culturelle, par le CNC. Donc tous ces mécanismes sont décrits par les personnages, sont expliqués de manière à comprendre la nature de ce hold-up. La question, c'est comment on fait pour financer un film quand on ne connaît personne et qu'on n'a pas d'argent. Et la solution que trouvent ces deux personnages, en écoutant les conseils de leur maître en cinéma, qui est un certain Luc B, qui dirige la Cité du cinéma, donc ce sont deux étudiants en cinéma, c'est de financer le tournage par le tournage lui-même. Donc il propose une scène de braquage à Catherine Deneuve, et ce braquage, pour elle, c'est un simple tournage, sauf que ce qu'elle ignore, c'est qu'elle va braquer vraiment. Et c'est le rêve d'un producteur, un film qui se finance lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller jouer au casino comme l'ont fait certains pour financer leur film. Là, il suffit d'avoir Catherine Deneuve avec donc une fille à un flingue, on a Catherine Deneuve avec une arme, qui croit qu'elle joue une scène de braquage au Martinez, chez Chopard, pendant le Festival de Cannes, et repart avec 25 millions d'euros de bijoux. Et l'idée qu'ont ces étudiants, c'est à partir du moment où elle a fait le braquage, ça peut financer leur film. Évidemment, ça ne se passe pas aussi simplement que ça, mais l'idée est suffisamment troublante et embêtante. Je me suis documenté beaucoup. J'ai approché la BRB, notamment la Brigade de répression du banditisme, qui a accepté de me donner rendez-vous, mais qui ils m'ont révélé ensuite qu'ils avaient enquêté sur moi pendant 24 heures parce que l'intrigue était suffisamment crédible pour les inquiéter. Ils se demandaient si j'étais pas au courant de projets en cours. Ils se demandaient comment ça arrivait jusqu'à eux.
Quel bel hommage.
Oui, et ils ont accepté de le relire. Enfin, deux personnes à la BRB qui m'ont permis de rendre le livre non seulement bon drôle, mais surtout très crédible du point de vue criminel, également du point de vue pénal, parce que l'idée qu'ont ces deux étudiants est extrêmement grave du point de vue pénal, c'est 10, 20, 30 ans de prison, et donc tout est crédible.
Voilà, et puis vous venez de le dire aussi, c'est un roman très documenté, d'ailleurs vous citez à la fin du roman toutes vos sources. Est-ce qu'on peut dire que c'est la réflexion de Godard qui a été au départ de ce roman, Une fille et un flingue, Olivier Pourriol, vous qui êtes tout à la fois essayiste, philosophe, avant d'être amateur de cinéma et critique de films?
C'est plutôt dans l'autre sens. Dans une vie, on est d'abord amateur de cinéma. La philosophie vient plus tard, à l'adolescence, à l'âge adulte, et on commence plutôt par être traversé et nourri par des livres, mais des films. Et d'une certaine manière, ce livre, c'est le résultat de la confluence du désir de cinéma qui est enfantin et de l'analyse qui est plus adulte. Donc j'ai essayé de retrouver le plaisir de ce désir d'enfance de faire du cinéma. Et c'est un désir qui, pour ma part, me traverse encore. Et j'espère en faire un film, peut-être. Et,
vous l'avez écrit pour ça? Pour que ça soit un film, finalement?
Moi, d'une certaine manière, c'est une idée qui est née de la difficulté de faire du cinéma. Pourquoi c'est difficile?
Quand on est écrivain, vous voulez dire?
Non, tout court. Et la difficulté du financement, c'est-à-dire que je trouve que quand on analyse bien une difficulté, d'une certaine manière, on la dépasse. Et j'en ai fait un sujet de livre, et c'est un roman que vous tenez entre vos mains. C'est peut-être pas un film, mais au lieu de s'obstiner à faire un film, ça peut faire un bon livre, un film qu'on n'arrive pas à faire. Et d'une certaine manière, c'est ça, un bon personnage. C'est quelqu'un qui a un désir, qui affronte des obstacles, qui se retrouve à devoir transiger avec son désir, à devoir s'adapter au monde. Et c'est l'aventure d'une liberté qui affronte des nécessités. Donc dans ce livre, vous trouvez véritablement une description des obstacles au désir de cinéma, qui sont des obstacles qui existent, et puis il y a des possibilités. Mais si vous écoutez de la bouche même, que ce soit de Marlon Brando, de François Truffaut, de Jean-Luc Godard, ils ont tous dû inventer leur manière d'arriver au cinéma, et c'était pas une autoroute. Ils ont dû passer par transformer l'obstacle en occasion.
Et puis, est-ce qu'on peut être tout à la fois écrivain, avoir le désir de faire des films? Ça, oui, bien sûr. Et vous-même, vous avez apparemment un désir de réaliser un film. Mais est-ce que dans le monde français, dans le petit monde français, ça le cinéma réussit aux écrivains?
C'est difficile à dire. C'est vrai qu'il y a un producteur qui lit un livre, normalement pour lui c'est des vacances, donc c'est plus facile d'approcher un producteur avec un roman qu'avec un scénario. Mais c'est une question qui n'a pas de réponse abstraite. Il y a que des cas particuliers. Je saurais pas quoi vous dire. On verra quand on sera mort. Enfin, on verra pas grand chose. Mais à la fin d'une vie,
on a des exemples quand même. Hein.
Mais si vous prenez Godard le dit lui-même, il rêvait d'être écrivain et il voulait être publié chez Gallimard parce qu'il y avait le prestige de la couverture crème, enfin la blanche. Et il dit, j'ai commencé par écrire, j'écris Il fait nuit et puis j'en suis resté là. Donc d'une certaine manière, ce que Godard dit, c'est qu'il rêvait d'être écrivain, il n'y est pas arrivé. Il a voulu être peintre, il n'y est pas arrivé, donc il a fait du cinéma. Donc évidemment, c'est de l'humour, mais en même temps, c'est pas si faux que ça. Ce que dit Godard, c'est que il a toujours eu l'impression que faire du cinéma, c'était d'une certaine manière s'abandonner à quelque chose qui se faisait tout seul. Après, il dit ça à une époque où c'était peut-être possible. Et puis, il a lutté quand même beaucoup, Godard. Quand on connaît sa vie, il a dû inventer son chemin, mais c'était plus facile pour lui. Disons que la résistance propre au cinéma, ce qu'il dit, c'est que quand on tourne quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se fait. Il suffit de tourner, c'est pas aussi simple que ça, faut monter, etc. Mais alors que écrire, la résistance propre au langage, c'est quelque chose qui ne peut pas se vaincre par des détours. On doit affronter de manière directe la difficulté d'écrire. Alors que le cinéma, ça a l'air toujours plus facile parce qu'on est en équipe, parce qu'il y a le son, parce que ci, parce que ça. Et en même temps, bon, quand on est écrivain et qu'on est habitué à la liberté d'affronter les mots, c'est assez difficile de travailler la matière elle-même plutôt que le langage. Donc j'ai pas de réponse vraiment à votre question. Moi j'ai les deux désirs qui m'ont toujours traversé. C'est le désir de raconter des histoires, mais à chaque fois dans un élément différent, que ce soit le cinéma. J'ai fait un court métrage qui est interdit au moins de 16 ans d'ailleurs par le CNC, parce qu'il est un peu violent. Mais ce sont des désirs qui ne sont pas contradictoires. Je ne crois pas. Alors peut-être qu'en France c'est le cas. J'ai pas les éléments pour analyser ça de près. Mais j'espère que non. Je pense qu'un désir fort doit finir par advenir.
D'après vous, pourquoi Marguerite Duras a fait du cinéma?
Elle répond, elle dit « J'ai fait du cinéma parce que je n'avais pas la force de ne rien faire. »
Ah bah c'est très bien. C'est exactement l'extrait que j'allais vous proposer. Ah, c'était en 1975, à propos d'Idia Song.
C'est le début de l'image, ça. C'est un soleil énorme qui rouge au-dessus d'une vallée qui disparaît peu à peu. C'est très long. La forêt. C'est désert. Silence. Puis, radotage et cri de la mendiante, très proche. Puis trace d'un cri. Puis silence. Puis les voix. Tu vois qui parle d'elle, de la mendiante. J'ai le sentiment, quand je fais un film, d'appréhender quelque chose de l'extérieur, vous voyez, pour un moment, pour le temps du film. De prendre cette histoire qui était là, c'est une façon de parler, enfin. Et une fois le film terminé, de la rendre. C'est comme si je captais de l'eau, vous voyez, une rivière. Et qu'ensuite je la rendais au monde. Mais souvent dans les films, il n'y a pas ce moment-là de rendre les choses. Dans Indiana Jones, je crois que je rends le film. Je rends la lèpre à la lèpre, le silence au silence. Et cette femme, je la redonne à la mort. J'ai ce sentiment. Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. C'est parce que je n'ai pas la force de m'occuper à rien que je fais des films. Pour aucune autre raison. C'est là le plus vrai, je crois, de tout ce que je peux dire sur mon entreprise.
Elle a l'air vraiment sérieuse quand elle dit ça, Marguerite Duras, Olivier Pourriol. Mais vous moquez d'elle dans votre roman.
Non, mais
une fille et un flingue. Si, un peu quand même.
Oui et non, parce que Marguerite Duras, pour moi, c'est à la fois l'auteur le plus sérieux et le talent comique le plus incroyable de la littérature française. Parce que quand on lit ce que dit Marguerite Duras, par exemple, il y a un excellent livre écrit par son fils, je crois, enfin qui a recueilli des indications de jeu avec Bulogier, etc. Quand on lit ce que dit Marguerite Duras, c'est toujours drôle parce qu'il y a une forme de force comique. C'est une force qui va, Marguerite Duras. Rien ne l'arrête. Elle ose des énoncés qui ferait rougir.
Et en même temps, vous pouvez écrire, Duras, c'est toujours chiant, même quand on en parle pour en dire du mal, on lui enlèvera pas ça, ça reste chiant.
Ça reste chiant, mais ce que vous venez de citer, c'est, je l'attribue à Gérard Depardieu dans le livre. Il parle de Marguerite Duras en disant que chiant pour lui, c'est un compliment, c'est dans ce registre-là.
Mais ça, c'est de la fiction, hein. C'est comment vous imaginez Depardieu parlant de Duras, hein.
Oui, mais parce que si vous lisez la suite, il dit qu'on ne peut pas la déduraciser, elle est tellement libre, il faudrait être comme elle, mais on ne peut pas être aussi libre que Marguerite Duras. Donc vous voyez que...
Avec un hommage, c'était une vraie putain d'artiste, elle n'avait rien à foutre de rien, Marguerite, de rien, de personne, même pas d'elle-même.
Oui, et même pas de mourir. Hein. Ouais. C'est un hommage à sa liberté. Quand on accepte d'être ennuyeux pour les autres, ça veut dire qu'on est absolument libre. Donc Marguerite Duras, moi je la lis toujours avec délice, parce qu'elle est sérieuse.
Est-ce que vous voyez ses films avec le même délice, Olivier Pourriol?
Sincèrement, non.
Ouais, mais, on a du mal quand même.
Comme elle le dit elle-même, la raison pour laquelle elle fait du cinéma, vous voyez, c'est drôle ce qu'elle répond. Et c'est sérieux en même temps.
Est-ce que vous aimez le cinéma français d'aujourd'hui, au fait?
Alors c'est quoi le cinéma français d'aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de films très différents. J'aime beaucoup par exemple Guy Roddy, Rester Vertical, etc. Après, bon, ce qu'on peut aimer dans le cinéma français de manière générale, c'est qu'il résiste au cinéma américain. Et c'est le sujet du livre aussi. Mm-hmm. C'est comment... par exemple, il y a un personnage qui explique que le CNC, l'exception culturelle, c'est un peu ce que faisait Truffaut pendant la guerre quand il faisait les poches des soldats allemands, puis qu'il faisait les poches des soldats américains. C'est ce que faisait Truffaut hein, quand il était enfant. D'une certaine manière, le CNC, la taxe spéciale sur le ticket de cinéma, c'est un racket du cinéma américain. C'est grâce à l'argent prélevé sur Batman qu'on va pouvoir financer des Pléchins.
Et vous avez choisi une musique de film, mais pas de film français. Nino Rota pour 8,5 de Fellini.
Mais parce que le rêve de cinéma, il n'est pas français. Le rêve de cinéma, il n'a pas de nationalité. Et il y a des êtres comme Fellini qui sont des êtres de cinéma pur, qui disent qu'il faut échapper à la réalité pour en inventer une qui soit plus habitable. Et chaque cinéaste échappe à la réalité dont il vient. Et ce qui fait qu'on a un grand cinéaste, c'est qu'on n'est ni français, ni italien, c'est qu'on est du cinéma.
Vous avez cité Rester Vertical de Guy Roddy comme film que vous avez aimé dernièrement. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Des films français ou des films tout court?
Des films tout court.
Mais oui, moi, je suis très curieux et je suis très bon public. C'est-à-dire que je ne cherche pas à critiquer un film. Je trouve qu'un film, c'est comme la mer. On rentre dedans comme dans un élément et on le revoit, on le revit. Hier soir, j'ai revu Bienvenue à Gattaca. Avant-hier, j'ai vu Genius. Les Ensorcelés, c'était il n'y a pas longtemps. Voilà, je crois que le cinéma, c'est le, comment dire, c'est ce qu'il y a à la fois de plus intime et de plus partageable avec tout le monde. C'est le dernier lieu commun qui nous réunit, peut-être.
Et la littérature? Dernier livre lu, aimé?
Dernier livre lu, aimé, c'est un livre qui s'appelle La fin de l'homme rouge. Je sais plus son nom, le prix Nobel de littérature russe. Un livre extraordinaire. Où elle recueille les paroles de de tous ces Russes qui ont connu la fin de l'homme russe, la fin de l'homme rouge.
Demain, on parlera ni de cinéma ni de littérature, mais ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire de bande dessinée, comme tous les vendredis. Merci Olivier Pourriol d'être passé. Je rappelle, Une fille et un flingue, c'est édité chez Stock. Merci.
Merci.